Bonsoir à tous. Faut-il continuer à tester massivement face à un variant aussi contagieux qu'Omicron? Nombre record des contaminations, multiplication des cas contacts et nombre de tests record également, provoquant une saturation du système. La stratégie de dépistage du gouvernement, remise en question par les médecins, précision dans un instant. Des milliers de manifestants contre le projet de passe vaccinal à Paris, les antipass, se sont rassemblés dans plusieurs villes pour dénoncer les dernières décisions du gouvernement. Dans ce journal, également un samedi de campagne pour les candidats à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo sur le point d'abandonner sa proposition de primaire à gauche et Éric Zemmour défend la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Un rassemblement à Paris pour Benjamin Brière, détenu en Iran et accusé d'espionnage. La météo, un dimanche agité et de la pluie dans le sud-ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Face à une flambée inédite des contaminations au coronavirus en France, en raison de la forte contagiosité du variant Omicron, la stratégie de dépistage du gouvernement est remise en question. Plusieurs voix demandent une adaptation. Le variant Omicron connaît une forte poussée. Il y a davantage de personnes malades, beaucoup plus de cas contacts, ce qui entraîne un embouteillage sur les tests. Des médecins, des scientifiques se demandent si l'on doit continuer de tester à tout va. La question peut paraître incongrue, mais elle se pose. Est-ce que l'on teste trop et doit-on changer de stratégie, Véronique Julia?
Plus d'un million de Français testés chaque jour, près de 10 millions de tests réalisés la semaine dernière, une incidence record à plus de 2000 cas pour 100 000 habitants, qui a doublé en quelques jours face au tsunami Omicron. Des voix s'élèvent en effet parmi des médecins notamment, qui posent la question « faut-il encore tester en masse ?» On a perdu le contrôle, ne faut-il pas accepter que le virus circule et arrêter de vouloir à tout prix le rechercher, interroge l'un d'entre eux. D'autant que ça coûte cher, ajoute un collègue qui n'en voit plus tellement l'utilité. Vu la contagiosité du virus, dit-il, on va tous l'attraper, alors, les épidémiologistes ne sont pas d'accord. D'abord, on ne sait pas tout encore de ce virus. Mieux vaut donc tenter de le contenir, parce qu'il y a des personnes fragiles qui peuvent encore faire des formes graves, parce qu'il y a des enfants hospitalisés, des Covid longs, parce que le variant Delta est encore présent dans certaines régions, parce qu'un nouveau variant aussi peut émerger. Bref, la question divise. Sans arrêter de tester, certains patrons de laboratoires demandent en revanche à ce qu'on teste autrement. On teste trop quand il ne faut pas, et pas assez quand il le faudrait, explique ainsi le syndicat des biologistes médicaux. Il réclame, lui, une nouvelle stratégie concertée, plus cohérente et qui saturerait moins les labos.
Et dans le même temps, les opposants aux mesures sanitaires ont manifesté une nouvelle fois aujourd'hui à Paris où a eu lieu le défilé le plus important. Les antipasses vaccinales se sont rassemblées à l'appel du président des Patriotes et candidat à l'élection présidentielle Florian Philippot. Une mobilisation en demi-teinte dans les rues quelques jours après les propos d'Emmanuel Macron qui avait fait part de son envie d'emmerder les non-vaccinés. Reportage à Poitiers, Sarah Ders, France Bleu Poitou.
Des masques sur le visage, le corps recouvert de combinaisons blanches, il mène la danse et s'élance de la place Charles de Gaulle à Poitiers. Avec cette voix en fond musical, Léopold tire les enceintes, cette figure antipasse est très remontée.
Le pass vaccinal n'est que une aberration qui continue la politique absurde de ce gouvernement et d'autres gouvernements en Europe et dans le monde.
Le gouvernement va trop loin pour Charles, la vingtaine. C'est pour cela qu'il décide de descendre dans la rue pour la première fois.
Il y a une volonté de division sur les non-vaccinés. Bon, maintenant, je suis vacciné, moi. Donc. Mais même, je trouve ça... ce qu'a pu dire Emmanuel Macron, je trouve ça indécent. Il faut qu'on en arrive à des mesures qui... au-delà d'aller sur trop loin, en fait, c'est que ça touche ce qu'on appelle le bon sens.
Aleidi s'inquiète surtout du protocole sanitaire à l'école. Cette maman refuse que son enfant se fasse vacciner.
Je souhaite que ma fille ne vive pas dans un pays où on enlève toutes nos libertés. Elle est obligée de porter le masque toute la journée. Et il est encore hors de question qu'elle fasse le test, le vaccin. On n'a pas à l'obliger à faire ça.
Les manifestants tentent ainsi de peser sur le débat autour du pass vaccinal au Parlement.
Et ce soir, le Royaume-Uni annonce que l'épidémie a fait plus de 150 000 morts dans le pays. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus endeuillés d'Europe. La semaine qui arrive sera une semaine sous tension au travail, à l'hôpital, dans les pharmacies pour se faire tester, on l'a vu, mais aussi à l'école et dans les transports. Jeudi prochain, 13 janvier, la quasi-totalité des syndicats d'enseignants appellent à la grève. De son côté, la SNCF va supprimer à partir de la semaine prochaine 10% de ses TGV, 20% des intercités en raison d'une chute chute des réservations, mais également en raison du manque de personnel à la SNCF à cause de la crise sanitaire. Bruno Gazot, président de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports.
Sur les TER, c'est très manifeste. Il y a un défaut de personnel consécutivement au Covid dans à peu près toutes les régions de France, y compris, alors d'abord pour les conducteurs bien sûr, mais y compris pour les agents de maintenance, c'est-à-dire ceux qui entretiennent les trains et qui doivent maintenir les trains pour pouvoir les remettre en circulation au fur et à mesure que la fréquentation revient et que le Covid s'atténue.
Ça veut dire qu'il y a des usagers qui sont en difficulté à partir de maintenant pour aller au travail tout simplement?
Ah ben bien sûr, parce que tout le monde n'a pas une voiture, donc tout le monde ne peut pas non plus un car à disposition. Donc oui, il y a des signalements d'usagers qui rencontrent des difficultés pour aller au travail, pour en revenir, et s'ils trouvent des solutions, ils les trouvent souvent avec 1 heure, 2 heures de retard, donc dans des conditions de transport extrêmement difficiles.
La politique ce week-end avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle en meeting. Marine Le Pen à Carcassonne, Yannick Jadot à Angers et Anne Hidalgo à Jarnac en Charente. La candidate socialiste est venue s'incliner sur la tombe de François Mitterrand et à Jarnac. Anne Hidalgo qui avait proposé à ses concurrents à gauche de participer ensemble à une primaire en vue de la présidentielle a constaté aujourd'hui l'échec pour l'instant de sa démarche, pointant en particulier l'écologiste Yannick Jadot, selon la candidate socialiste. Si dans cette primaire, les Verts autour de Jadot ne sont pas présents, cela ne s'appelle plus une primaire. Éric Zemmour, de son côté, était au Sable d'Olonne en Vendée pour défendre, avec l'un de ses soutiens, Philippe de Villiers, une statue symbole des traditions chrétiennes qui risque d'être déboulonnée. Sur place, le reportage d'Audrey Tison.
Un archange Saint-Michel installé il y a 3 ans sur une place publique à 2 pas de l'église qui porte le même nom. Il doit être déboulonné, décision du tribunal administratif saisie par l'association laïque Libre Pensée. Mais le maire de la ville fait de la résistance. Éric Zemmour et son allié vendéen Philippe de Villiers viennent à sa rescousse.
C'est le symbole de l'enracinement millénaire chrétien dans cette région et dans toute la France. Et c'est surtout l'objet de la vindicte imbécile de laïcards désuets qui sont les idiots utiles de la woke culture qui veut détruire les traditions françaises.
Il est sidérant qu'il y ait aujourd'hui des élites et parfois des juges qui veulent déboulonner les statues. Quand on commence à déboulonner les statues, à changer le nom des rues, c'est le début d'un processus terroriste.
Une statue symbole d'une civilisation à défendre, le candidat Zemmour force le trait en réunion publique devant des centaines de partisans.
C'est la France qu'ils veulent déconstruire pour mieux la détruire. C'est le peuple français qu'ils veulent faire disparaître.
Des références historiques et une réflexion identitaire au programme de ce discours, mais aucune proposition concrète de la part du candidat.
Audrey Tison, sur place au Sable d'Olonne. Benjamin Brière n'est pas un espion, juste un touriste. Blandine Brière, sa sœur, organisait aujourd'hui un rassemblement de soutien à son frère à Paris. Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes. Benjamin Brière, 36 ans, est détenu en Iran depuis bientôt 20 mois. L'Iran l'accuse d'espionnage pour avoir pris notamment avec un drone des photos dans des zones interdites. Benjamin Brière rejette ces accusations. Il a entamé une grève de la faim à Noël. Pour ses proches, il y a urgence. Julie Pietri.
Parmi les manifestants qui portaient des masques Free Benjamin sur le visage et des pancartes aussi avec la photo du jeune homme, il y avait Francine Brière, la mère de Benjamin, extrêmement émue et inquiète.
Pour le soutenir, parce que là, il en a besoin, il ne mange plus. Hein.
Il y a 15 jours, Benjamin Brière a entamé une grève de la faim pour protester contre sa situation. Les autorités iraniennes l'accusent d'espionnage et de propagande, mais aucune cour ne s'est emparée du dossier. Son cousin, Flavien Chabot.
C'est compliqué, hein, il est dans une prison avec 20 autres détenus, enfin, dans une pièce avec 20 autres détenus. Ça fait maintenant 20 mois qu'il vit la même journée tous les jours, qu'il mange les mêmes choses chaque semaine. C'est des conditions très compliquées, d'hygiène de vie aussi très compliquées.
Qualifier Benjamin Brière d'espion est absurde, a encore rappelé sa sœur, Blandine. C'est, dit-elle, un amoureux de voyage et de nature pris dans des enjeux de pressions internationales qui le dépassent.
Au début, en fait, on pensait un malentendu, simplement qu'il allait s'arranger et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que Benjamin est pris en otage des autorités iraniennes. On n'a aucune raison de le garder enfermé là-bas. C'est un touriste français qui est enfermé sans raison là-bas.
En manifestant, les proches de Benjamin Brière veulent attirer l'attention de la presse, des autorités française de l'Iran, où les accusations pour espionnage peuvent mener à la peine de mort.
À Albi, dans le Tarn, une centaine de personnes réunies lors d'une messe en hommage à Delphine Jubilard, une cérémonie religieuse organisée dans le but de faire la lumière sur cette disparition. Sur place à Albi, Soizic Pelé.
Environ 150 personnes se sont réunies dans la cathédrale Sainte-Cécile à Albi cet après-midi. La famille, bien sûr, qui était à l'origine de cet événement, la sœur, les frères, les cousins et les neveux de Delphine Jubilard, mais aussi des anonymes comme Isabelle.
Nous, on est venus se recueillir pour justement que vérité soit faite et soutenir la famille surtout. On les connaît pas particulièrement, mais cette histoire, elle nous touche à tous. Et puis bon, une maman avec ses deux enfants disparaître comme ça du jour au lendemain, c'est quand même assez poignant, quoi. Il faut vraiment qu'on nous amène vers la lumière, quoi, qu'elle soit retrouvée, quoi.
Comme elle, la plupart des femmes évoquent le fait que ce soit une mère avec des enfants. C'est ça qui les touche en premier. Les deux enfants de Delphine Jubilard, présents d'ailleurs pendant cette cérémonie, assis au premier rang de la cathédrale, et sur les photos affichées devant l'autel pour l'occasion, des photos devant lesquelles des bougies ont été déposées au début de la cérémonie par chacune des personnes présentes.
Et puis concernant le double meurtre la nuit dernière à Aubervilliers, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir poignardé mortellement sa compagne âgée de 29 ans et leur fille de 2 ans et demi. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises des faits. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Et cette semaine, vous nous parlez de Sondo, bibliothèque numérique particulièrement adaptée pour les lecteurs atteints de troubles 10 comme la dyslexie ou la dysphasie.
Oui, il existe déjà des livres adaptés en librairie avec des typographies et des couleurs particulières pour les aider à lire. Et désormais, une solution numérique est proposée et déployée dans les écoles et les collèges.
Et vous êtes allé au collège Françoise Zeligman à Paris, où des élèves de 6e se servent de cette solution.
Oui, et j'ai parlé avec Iliès qui pratique Sondo.
L'application permet beaucoup plus d'options que si tu lisais un livre normalement. Voilà. Et là, vous êtes sur la première page du livre. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options. Cette option, c'est pour que ça le lise à haute voix.
Alors Motus, là, je vois qu'en fait, chaque syllabe a une couleur différente.
Exactement.
Hein, on en rouge, son en bleu.
Ça l'assombrit pour mieux lire comme celui-là.
Voilà, Iliès connaît bien Sondo car il est élève de Nathalie Lemaine. Les élèves s'en servent surtout chez eux et ils ont avec Sondo des dizaines de livres à disposition à lire sur PC, tablette ou portable.
Donc c'est déjà d'un accès facile et gratuit pour eux et pour ceux qui ont du mal à lire. Le système donne plusieurs outils pour faciliter la lecture.
Vous avez entendu Iliès, il y a une version audio, des syllabes en couleurs différentes, des lignes sur des fonds différents. Il y a aussi une règle virtuelle et un lexique. Les outils sont adapté aux 10, comme vous l'avez dit, Frédéric, mais ils sont en fait utiles à tous. C'est ce qu'a constaté la professeure de français, Nathalie Lemaine.
Sondo, c'est un outil qui peut être effectivement pour favoriser l'affluence, pour que l'élève se réapproprie l'écrit, pour qu'il se sente plus à l'aise dans la lecture et accéder après à une lecture peut-être plus autonome. Et là, finalement, Sondo a été conçu pour des élèves dyslexiques. Mais effectivement, moi, j'ai bien vu l'intérêt pour beaucoup d'autres élèves qui ne sont pas diagnostiqués dyslexiques.
Alors, est-ce que finalement, on obtient des résultats probants et quantifiables ? Voilà la réponse de Nathalie Lemaine.
C'est pas forcément mesurable, par exemple, par la note, les résultats scolaires. En revanche, par exemple, l'année dernière, les élèves étaient très très contents d'avoir eu accès à cette bibliothèque. Voilà, après, c'est une conviction. À partir du moment où ils sont plus longtemps face à un texte, que ce soit à l'écouter ou à le lire sur papier ou sur tablette, c'est déjà beaucoup.
Voilà, pour lire, connecté ou pas, toutes les solutions sont bonnes.
Merci Christine Siméon, Ma Vie Connectée à retrouver sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, les pluies vont devenir conséquentes au sud de la Garonne, en particulier sur les départements pyrénéens, apportant beaucoup de neige sur les massifs au-dessus de 1300 mètres le matin, 2000 en journée. Du nord de l'Aquitaine à la Bretagne, les averses matinales seront suivies d'un ciel maussade. Un temps également bien gris va survenir. survoler le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes avec des flocons à partir de 700 mètres. Du Massif central en remontant vers le centre et le nord de la Seine, le ciel va retrouver plus de couleurs qu'aujourd'hui, mais avec un risque d'ondées passagères. Autour de la Méditerranée, le soleil va l'emporter, sauf sur la Corse, où le temps sera parfois menaçant avec beaucoup de vent sur les caps. Enfin, les températures sans changement, généralement entre 1 et 6 degrés en fin de nuit, jusqu'à 10 sur les côtes, vont afficher 12 à 15 l'après-midi de la Garonne à la Méditerranée, 4 à 7 dans l'Est et 7 à 10 sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski de Météo France.